VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 27 octobre 2020. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Au Niger, le fils d'un missionnaire américain a été enlevé près de la frontière avec le Nigeria. Ouverture du procès des attentats de 2015 à Bamako en présence du principal accusé, le Mauritanien Fawaz Ould Ahmed. En Guinée, la médiation internationale a exhorté Conakry à lever le dispositif qui empêche l'accès au domicile de l'opposant Seydou Alain Diallo. Juste après le journal, ce sera les sports. Nous commençons par l'actualité aux États-Unis à une semaine de la présidentielle. Donald Trump et Joe Biden enchaînent les visites des États pivots. À quelques jours des élections du 3 novembre, les candidats Donald Trump et Joe Biden se concentrent sur quelques États qui seront décisifs alors que plus de 65 millions d'électeurs ont déjà voté. Le point avec Abdourahmane Dia.
La ville de Lansing, dans le Michigan, reçoit ce mardi le président Donald Trump, qui avait remporté cet État avec une courte victoire en 2016. Il doit aussi visiter le Wisconsin et l'Iowa, tandis que son rival Joe Biden a prévu de se rendre dans l'État de Géorgie qu'aucun candidat démocrate à la présidence n'a remporté depuis 1992. Près de 40% des électeurs de la Géorgie se sont déjà prononcés sur ce scrutin, mais aussi sur des élections locales et parlementaires. La Pennsylvanie a été hier au centre des convoitises. Le président Trump y a tenu 3 meetings. Cette offensive de Trump en Pennsylvanie a poussé hier Joe Biden à y effectuer une visite surprise. Il a encore critiqué le président sur sa gestion de la pandémie de COVID-19.
The bottom line is, Donald Trump is the worst possible president.
En fin de compte, Donald Trump est le pire président, la pire personne qui puisse nous diriger pendant cette pandémie. Je ne pense pas, il n'a aucune idée de ce qu'il faut faire, ou alors il s'en fout.
À Allentown, en Pennsylvanie, Donald Trump a répondu aux critiques des démocrates qui l'accusent d'avoir abandonné la lutte contre le coronavirus.
Non, pas du tout. En fait, c'est le contraire. Absolument le contraire. Nous avons fait un travail incroyable. J'ai été un coup d'œil à ce qui se passe en Europe. Ce qui se passe en Europe, on n'a jamais vu pareil. Et vous me parliez de l'Europe. Non, nous faisons un excellent travail. Nous contrôlons la situation. À part les fake news qui veulent effrayer tout le monde, nous sommes absolument en train d'aborder le virage.
Les colistiers de Donald Trump et Joe Biden sont aussi sur le terrain pour essayer de convaincre les électeurs.
Le Sénat américain a confirmé lundi soir la nomination par le président Donald Trump de la juge Amy Coney Barrett à la Cour suprême. Un reportage de Catherine Gibson, correspondante de La Voix de l'Amérique au Congrès. Le récit est de Jacques Aristide.
Sous le regard du président Trump, la juge Amy Coney Barrett a prêté serment pour rejoindre la plus haute cour du pays.
Elle est l'une des juristes les plus brillantes de notre nation et elle sera une juge exceptionnelle à la plus haute juridiction de notre pays.
Mère de 7 enfants et fervente catholique, Madame Barrett a eu l'approbation du Sénat américain lors d'un vote hier par 52 voix contre 48. Elle remplace à la Cour suprême la juge Ruth Bader Ginsburg, décédée le mois dernier. Tous les républicains, sauf une, ont soutenu Madame Barrett. Les membres du parti du président l'ont dépeinte comme une candidate très qualifiée. Mitch McConnell, chef de la majorité républicaine au Sénat.
Ce soir, nous pouvons placer une femme aux capacités et au tempérament inégalés à la Cour suprême. Nous pouvons faire un autre pas historique vers un système judiciaire qui remplit son rôle d'une manière excellente.
En revanche, tous les démocrates ont voté contre elle, la faisant valoir que le processus de confirmation de Mme Barrett était trop proche du jour des élections. Chuck Schumer, chef de la minorité démocrate au Sénat.
La majorité républicaine du Sénat a décidé de contredire la volonté du peuple et confirmer une nomination à vie à la Cour suprême au milieu de l'élection présidentielle, et ce, après que plus de 60 millions d'Américains ont voté. Que ce soit noté ce soir, la majorité républicaine brise une tradition longue de 231 ans
et devient la première majorité à confirmer un juge à la Cour suprême aussi proche des élections.
Les démocrates craignent que Mme Barrett cimente une majorité conservatrice de 6 juges contre 3 à la Cour suprême. Le sénateur démocrate Chris Coons.
Les affaires qui pourraient être en danger avec la juge Barrett à la Cour suprême couvrent un vaste éventail de sujets, des questions qui affectent au total des centaines de millions de vies américaines, des soins de santé à l'éducation, en passant par la protection des consommateurs et l'égalité du mariage.
Mais au cours du processus de confirmation de 4 jours, Mme Barrett a déclaré aux législateurs qu'elle n'apporterait aucun agenda personnel aux décisions judiciaires, ce qui a entraîné les éloges du chef républicain de la commission judiciaire du Sénat, Lindsey Graham.
Pour les jeunes femmes conservatrices qui sont pro-vie et adhèrent à leur foi, il y a une place à la table des discussions pour vous. C'est historique. Cette nomination est différente. C'est une percée pour les jeunes femmes conservatrices.
La juge Barrett va siéger presque immédiatement lors des audiences à venir, concernant notamment une contestation de la loi sur les soins de santé de l'administration Obama qui offre une assurance maladie à des millions d'Américains, de même que d'éventuels recours liés au nombre record de bulletins de vote par correspondance.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Niger, un Américain du nom de Philip Walton a été enlevé ce mardi par 6 hommes armés près de la frontière avec le Nigeria. C'est la première fois qu'un enlèvement a lieu dans cette partie du pays. Le point avec notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
C'est dans un jardin où il vit avec son épouse, leur enfant et une autre personne que Philip Walton a été enlevé tôt ce mercredi matin. Il y vit depuis un an après avoir quitté le domicile de son père, installé lui depuis 2003 à Birnin Kony, à quelques kilomètres de Massalata.
Moi, c'est M. Bruce Walton, travailleur ici. J'ai une entreprise pour fabriquer le fromage à Kony. Il y avait dans la nuit 6 hommes qui sont venus à pied. Ils ont enlevé mon fils, Philippe Walton. Il cherchait de l'argent dans la maison, mais il n'avait pas assez de l'argent. Il n'avait que quelques 20 000 francs. Suite à cela, ils sont partis avec lui. Ils parlaient Hausa entre eux et ils essayaient de parler Hausa avec Philippe. Mais et ils connaissaient quelques mots anglais comme « sit down ». Bring money. Ils ont été tous les 6 armés.
Ce matin, une réunion d'urgence du Conseil départemental de sécurité de Birnin Kony s'est tenue. Ibrahim Abalele est le préfet du département.
On a alerté donc les patrouilles qui étaient parties à leur recherche, mais malheureusement, ils sont déjà rentrés au Nigeria. Et ils ont informé leurs collègues du Nigeria pour poursuivre donc les assaillants là qui étaient venus. Donc jusqu'à présent, on n'a pas eu le feedback, mais nous sommes sûrs qu'ils vont le faire comme c'est une convention entre nous.
La localité de Massalata est située à quelques kilomètres de la frontière nigériane. Dans cette zone se trouve une unité de la police des frontières du Niger, formée et équipée par le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Abdulrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Au Mali, début à Bamako du procès des attaques contre le Radisson Blue Hotel, le restaurant La Terrasse et l'hôtel Biblos. Les deux principaux assaillants présumés, Fawaz Ould Ahmed et Sadou Chaka, ont comparu devant la cour d'assises. Le jugement se poursuit mercredi. Le point avec Kassim Traoré dans la capitale malienne.
Les travaux de la cour d'assises de Bamako se déroulent normalement. Ce matin, l'incertitude régnait sur la présence ou non de Fawaz Ould Ahmed, principal accusé dans l'affaire de La Terrasse. Beaucoup assuraient qu'il faisait partie des 204 personnes libérées en échange des otages européens, dont Sophie Petronin et l'homme politique Soumaïla Cissé. Il est aujourd'hui accusé de perpétrer l'attentat du restaurant La Terrasse et commandité celui de l'hôtel Radisson personnes qui ont respectivement fait 5 à 22 morts. Également présent, Sadou Chaka, alias Ousmane. Il est accusé d'avoir commandité l'attentat de Radisson Blu en novembre 2015. Au total, il y a eu 22 morts à l'hôtel Radisson. Le président de la cour dira qu'il est reproché à Faouz Al-Mohamed d'avoir planifié les événements qui ont eu lieu à la terrasse, d'être arrivé dans les restaurants avec une arme et d'avoir tiré sur des gens, notamment européens et maliens, qui étaient simplement venus se distraire. La suspension de séance est intervenue après la lecture des chefs d'accusation. Puis le président du tribunal est revenu dans la salle pour annoncer que le jugement va se poursuivre demain matin. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Guinée, la médiation internationale a exhorté Conakry à lever le dispositif de sécurité qui empêche l'accès au domicile de l'opposant Seloud Alain Diallo et au siège de son parti, après 8 jours de violence qui ont suivi la réélection du président Alpha Condé. Le point avec Jacques Aristide.
La CEDEAO, l'Union africaine et l'ONU appellent à un dialogue inclusif au lendemain d'une rencontre avec Seloud Alain Diallo à son domicile où le chef de l'opposition affirme être séquestré depuis plusieurs jours par les forces de l'ordre. La médiation demande également que les forces de l'ordre agissent avec retenue et professionnalisme dans la gestion des manifestations. Elle veut des enquêtes pour faire la lumière sur les violences afin, dit-elle, de traduire les auteurs en justice. Le gouvernement guinéen a déclaré hier soir que 21 personnes ont été tuées depuis le 19 octobre dernier dans les violences post-électorales, dont des membres des forces de l'ordre. Il indique que plus de 240 personnes ont été interpellées à travers le pays depuis 8 jours. Depuis son arrivée à Conakry dimanche, la médiation internationale a rencontré le président Alpha Condé, des membres du gouvernement et de la Cour constitutionnelle, la commission électorale et des ambassadeurs de pays occidentaux et africains. Seloud Alain Diallo compte introduire devant la Cour constitutionnelle un recours contre les résultats de la présidentielle, entachés selon lui de fraude massive.
Des dirigeants africains réunis à Brazzaville ont appelé à plus de solidarité internationale pour lutter contre le terrorisme. Il est difficile pour un pays de mener seul ce combat, a déclaré Félix Tshisekedi en présence des présidents tchadiens Déby, centrafricain Touadéra et du ministre français des Affaires étrangères Le Drian, invité par Denis Sassou Nguesso. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les sports présentés par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. La Zambie reprendra son championnat de football le 31 octobre. L'annonce a été faite par la fédération dont le secrétaire général Adrien Kachala a confié que tout est prêt pour la nouvelle saison. Les clubs devront respecter le protocole sanitaire en vigueur pour lutter contre la pandémie du nouveau coronavirus. La nouvelle saison a été lancée avec la Supercoupe de la Zambie. Nkana l'a emporté 2-0 devant Indeni FC avec un doublé d'Idriss Mbombo. La saison écoulée, le championnat a été stoppé par le coronavirus en mars avant de reprendre en juillet. Nkana a remporté un nouveau titre qui le remet donc en jeu cette saison. En Europe, la Ligue des Champions se poursuit ce soir avec les matchs de la deuxième journée. L'Atalanta Bergame accueille l'Ajax des Africains Franck Lassina Traoré, André Onana et autres. Liverpool de Sadio Mané, Mohamed Salah, Naby Keita et Joël Matip cherchent une deuxième victoire consécutive en Ligue des Champions. Après son succès à Amsterdam, le Bayern Munich du Camerounais Éric-Maxime Choupo-Moting, tenant du titre, a l'occasion de prolonger à Moscou face aux locomotives. Son effrayante série, le club bavarois, reste sur 12 victoires consécutives en Ligue des Champions. L'Atlético doit pour sa part refaire son retard face aux Autrichiens de Salzbourg. Après l'affront d'une défaite à domicile face au Shakhtar Donetsk, 3-2, le Real Madrid doit réagir à Mönchengladbach. Les Merengues peuvent s'appuyer sur leur succès samedi dans le Classico à Barcelone 3-1. Dans le groupe C, l'Olympique de Marseille fait face à un Cador, Manchester City de l'Algérien Riyad Mahrez. Paul Pogba a annoncé vouloir porter plainte contre les médias qui ont véhiculé une rumeur lui prêtant la volonté de se retirer de l'équipe de France en signe de protestation contre de récents propos du président français Emmanuel Macron sur l'islam. Le champion du monde 2018 avec les Bleus, qui compte 72 sélections, avec l'équipe de France parle d'informations absolument infondées. Je suis contre toute forme de terrorisme ou de violence, a précisé le milieu international français d'origine guinéenne qui est de confession musulmane.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. En Côte d'Ivoire, l'opposition a réitéré le mot d'ordre de boycott actif du processus électoral. Des manifestations à travers le pays ont fait plusieurs morts, suscitant une médiation de la CEDEAO que l'opposition a rejetée. Cette dernière proteste contre le troisième mandat du président Alassane Ouattara à l'élection du 31 octobre et exige la réforme de la commission électorale et du conseil constitutionnel. Yacouba Ouédraogo a joint Pascal Affine-Guessant, président de l'une des factions du FPI et candidat à la présidentielle.
Le bilan est largement positif puisque à travers cette opération nous avons réussi, comme nous l'avons souhaité, à perturber fortement le fonctionnement du pays, la distribution des cadres d'électeurs et le processus électoral de façon générale. Dans de nombreuses localités, la distribution des cadres électoraux est arrêtée. Et le gouvernement a dû délocaliser dans les brigades de gendarmerie des stocks de cadres pour les préserver. Les populations refusent d'aller retirer des cartes. De nombreuses voies aujourd'hui sont obstruées pour empêcher le convoyage des cartes et cela affecte l'économie de façon générale. Malheureusement, nous dénombrons de nombreuses pertes en vie humaine, près de 70 morts depuis que M. Ouattara a décidé d'être candidat.
Vous le dites si bien, le processus électoral est bouleversé par vos actions, les actions de vos militants. Comment perturber une élection à laquelle on est candidat?
Oui, parce que les conditions dans lesquelles le pouvoir veut organiser les élections sont des conditions inacceptables, des conditions injustes, avec une commission électorale qui nous contrôle totalement, parce que composée essentiellement de représentants de son parti, et donc qui ne garantit pas la transparence. Cette situation a été déjà condamnée par la Cour africaine des droits de l'homme à travers deux arrêts. Il y a que M. Ouattara lui-même n'a pas le droit d'être candidat. La constitution de 2016 l'en interdit. Il a déjà fait deux mandats. Il n'a pas droit à un troisième mandat. Et donc, nous partons pour faire échouer ce coup d'État.
Il y a la médiation initiée par la CEDEAO. Vous l'avez rejetée. Pourquoi?
Non, mais nous attendons. C'est nous qui avons sollicité le dialogue. C'est nous qui avons sollicité la médiation de la CEDEAO. Donc, nous répondons favorablement à la médiation de la CEDEAO, mais nous souhaitons que le dialogue avec le Ouattara, avec le pouvoir, se fasse donc sous l'égide de cette médiation. Et donc, c'est ce que nous avons formulé et nous attendons donc que ce processus-là se mette en place.
Mais la CEDEAO est déjà en médiation?
Oui, elle est déjà en médiation, donc nous attendons qu'elle nous convoque pour que nous commencions, nous entamions les négociations avec le pouvoir.
L'élection présidentielle, c'est le 31 octobre, dans 4 jours. Si les choses restent en l'état, que ferait l'opposition le 31 octobre?
Mais nous faisons en sorte que les choses ne restent pas en l'état. Nous faisons en sorte que soit nous entendons sur les conditions des élections, soit il n'y a pas d'élection le 31 octobre. Et nous mettrons tout en œuvre pour qu'il n'y ait pas d'élection. Et pour le moment, je peux dire que les conditions sont réunies pour qu'il n'y ait pas d'élection le 31 octobre.
Pascal Affine-Guessant est président de l'une des factions du FPI en Côte d'Ivoire.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Au Nigeria, les pillages de masse se multiplient malgré la répression et les appels au calme après 2 semaines de manifestations contre la violence policière qui se sont transformées en émeutes. Le président Muhammadu Buhari a demandé aux familles de ne pas accepter dans leur maison des articles pillés et le chef d'état-major de l'armée a ordonné aux troupes d'arrêter les pillards. Le reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
Des scènes de pillage encore en cours au Nigeria suite aux manifestations de jeunes la semaine dernière contre les brutalités policières. Ignorant les couvre-feux imposés par de nombreux gouverneurs des États de la Fédération, des foules ont envahi plusieurs entrepôts de stockage de nourriture appartenant au gouvernement pour emporter avec eux des vivres destinés à être distribués. 9 États de la Fédération nigériane ont été pillés ces derniers jours, comme ici à Kouboua, dans la banlieue d'Abuja. Ce matin, les forces de sécurité ont dispersé les foules de pillards qui ont tenté de dévaliser le centre d'hébergement des jeunes stagiaires sortant des universités. Le directeur général de l'agence, Shaibu Ibrahim, était sur place au moment de l'attaque.
Nous avions été surpris de les voir venir ici. Ils étaient armés de bois et des machettes pour attaquer le centre. Mais nous remercions l'armée et les autres qui ont sauvé l'institution. Mais je profite de cette opportunité pour dire aux Nigérians que ce centre n'est pas un point de stockage de nourriture. Il ne faut pas qu'ils attaquent notre centre.
À Kaduna, c'est le centre de stockage des produits pharmaceutiques appartenant à l'Agence nationale pour l'administration et le contrôle des aliments et des médicaments qui a été entièrement saccagé et vidé. Une situation grave, indiquent les autorités, puisque les produits volés peuvent être dangereux pour la santé. Dans d'autres états, les autorités sont à la chasse des pilleurs, comme à Jos, dans l'état du Plateau. Plus de 300 personnes sont arrêtées et seront jugées selon le secrétaire à la justice de l'état, Chris Santos Ahmad.
We have seen set into motion the process for the speedy.
Nous avions déjà commencé le processus pour le jugement rapide de ces personnes. Dès demain, vous allez voir que le procès va débuter. Les coupables feront face à la loi.
Des produits pillés proviennent de dons estimés à 64 millions de dollars remis aux autorités par la coalition des membres du secteur privé pour aider le gouvernement dans sa lutte contre le coronavirus. Mais de nombreuses autorités étatiques avaient interrompu la distribution de l'aide aux populations depuis la fin du confinement. De leur côté, certaines accusent des autorités d'avoir gardé de la nourriture alors que des millions de personnes ont souffert durant toute la période de confinement. Pour Mokhtar Halilou Modibo, le pillage ne se justifie pas, mais le gouvernement a aussi sa part de responsabilité.
Il n'y a aucune justification pour ce qui concerne le pillage. Du côté du gouvernement, oui, il y a un problème parce que si le gouvernement a reçu un don pour les populations, je pense qu'il doit le remettre aux populations auxquelles le don est destiné. Et si le gouvernement dit qu'il ne va pas le faire au moment précis, l'information doit être donnée au public.
Le Nigeria est le pays le plus peuplé du continent avec le plus grand nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté. Quelques 80 millions de personnes, selon le Bureau des statistiques du Nigeria, sont concernées. La pandémie du coronavirus a exacerbé la situation de nombreux foyers pauvres du pays. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
À l'approche de la rentrée scolaire du 2 novembre au Togo, le plus grand souci des parents n'est plus d'ordre pécunier, mais plutôt sanitaire, dans un contexte marqué par la pandémie de coronavirus. Beaucoup s'interrogent et dénoncent un manque de communication de la part des établissements. Un reportage de Kay Lawson, notre correspondante à Lomé.
J'ai ma fille qui est asthmatique. Je n'ai aucune assurance par rapport à cette rentrée. Je ne sais pas les mesures prises par l'école.
Ignolan Béléi a 2 enfants au cours primaire. Cette mère très attentionnée meurt d'inquiétude à force de penser à la reprise des cours dans des conditions qu'elle ignore.
J'ai un fils de 6 ans qui est au CP2, alors que le port de cache-nez, c'est à partir de 8 ans. Et je ne sais pas, je suis tellement inquiète. Je ne peux pas dire à un enfant, si tu vas à l'école, ne touche à rien. Donc, sans vous mentir, je suis abattue, déboussolée. Je ne sais même pas à quel sujet me vouer. Quand je pense à ça, je suis paniquée.
7 mois après la suspension des cours pour la majorité des élèves au Togo, ces derniers retrouvent les bancs ce lundi 2 novembre. Mais ce n'est pas de gaieté de cœur que les parents vont envoyer leurs enfants à l'école.
En tant que parent, je suis très inquiète parce que déjà, nous, en tant qu'adultes, on n'arrive pas à respecter les mesures barrières. À plus forte raison pour les enfants, ils vont porter certes les bavettes, Mais on sait tous qu'ils iront de gauche à droite. Si ce n'est pas par obligation, honnêtement, je n'allais pas autoriser que mon enfant y aille.
Malgré les mesures prises par le gouvernement, la maladie se propage. Il y a inquiétude. Avec toute la pensée que l'enfant revienne à la maison infecté et cet enfant-là aura infecté toute la famille.
C'est à la rentrée que le taux de contamination va augmenter. Si l'on ne fait pas attention, il y aura plus de décès infantiles.
Tous les acteurs du système éducatif togolais sont unanimes que le report successif de la rentrée scolaire ne constitue pas la voie appropriée.
Un nouveau report de la rentrée scolaire pour cause de COVID-19 ne serait pas une solution, à moins que les autorités jugent que les établissements ne sont pas encore prêts en termes de capacité de mise en œuvre des mesures barrières.
Si on continue, on va éternellement faire le report. Les cours à distance sont intéressants, mais est-ce que les conditions sont réunies? C'est maintenant, plus que jamais, que le gouvernement doit investir dans l'éducation de nos enfants.
Si pour les uns, il faut que le gouvernement investisse davantage dans l'éducation pour mieux encadrer les élèves, d'autres accusent les établissements scolaires de ne pas communiquer avec les parents pour les rassurer. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24h sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde Aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. À très bientôt et bon courage.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Chaque année, environ 300 000 enfants d'Afrique subsaharienne naissent avec la drépanocytose, une maladie causée par une ancienne mutation de l'un des gènes responsables du développement de l'hémoglobine. La maladie cause d'atroces douleurs ainsi que des dommages aux organes et au système immunitaire. Le dommage au système immunitaire survient très très tôt, si bien que les enfants qui ne reçoivent pas de soins appropriés peuvent mourir d'infections bactériennes très rapidement, a expliqué Brett Girouard, pédiatre et amiral dans le service américain de santé publique, actuellement secrétaire adjoint au ministère américain de la Santé. En effet, dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, on estime que 80% des enfants atteints de la drépanocytose vont mourir avant leur 5e anniversaire. Au plan international, les États-Unis œuvrent avec des pays comme l'Ouganda, qui vient juste de publier un plan national de traitement de la drépanocytose. Le plan ougandais est réellement un jalon, a dit l'amiral Girouard. C'est un plan spécifique, le coût a été entièrement évalué et c'est fait chronologiquement. C'est bien que nous savons ce qui doit être fait et quand cela doit l'être. C'est donc un plan robuste qui peut servir d'exemple au reste du continent. Il est important de noter que ce plan a été élaboré par l'Ouganda pour le peuple ougandais, a souligné l'amiral Girouard.
Ce que l'Ouganda a fait, c'était de comprendre la situation à l'intérieur du pays. Étant donné que dans plusieurs régions, la maladie est plus prévalente que dans d'autres. Ce sont des sortes d'accidents génétiques pour celui qui vit dans ces zones et comment ça se développe avec le temps. Ainsi, c'est un plan ciblé. Cela commence dans les endroits subissant le pire impact de la drépanocytose. Ainsi, les autorités vont d'abord se concentrer sur 75 districts sanitaires, puis étendre l'opération. L'Ouganda a accepté que son plan soit partagé avec d'autres pays à travers l'Afrique. Il faudra l'adapter aux besoins, à la population et à la situation économique de chaque pays. Mais cela peut se faire facilement, a assuré l'amiral Girouard, ajoutant « La première étape est d'avoir un plan. La seconde est vraiment de l'exécuter. Mais nous sommes dans une bonne position pour élaborer le plan et le mettre en œuvre.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.